La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour...
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. C'est un ami historien d'art, l'ancien directeur de la Villa Médicis, qui, pour occuper le temps d'un voyage en bateau vers Patmos, m'avait offert « Le sens du calme », un livre de 2011, une réflexion sur soi et sur l'art, écrit par Yannick Hennel. Je l'ai lu comme on lit en bateau, à la gîte, un peu ivre des risées qui l'entraîne, mais j'ai su que l'auteur, quand il était pensionnaire de la Villa Médicis, avait trouvé, là-bas, une Rome plus vaste que la ville. Un arrière-pays qui s'appelle l'art et dont la lecture de quelques-uns de ses livres suivants me confirmait l'importance dans son œuvre, comme si les artistes et leurs tableaux, leurs films, leurs sculptures pressaient le ressort même de son écriture. Nous nous sommes rencontrés un peu plus tard dans une résidence d'art contemporain à Tourcoing, ça s'appelle le Frénois, dirigé par le grand artiste, écrivain et cinéaste Alain Fleischer. Et au Frénois, Yannick Hennel a écrit un roman qui emporte avec lui, comme s'il fallait qu'il les protège par son écriture, les 52 jeunes artistes qui y travaillaient et auxquels il a offert son long texte qui décrit leurs œuvres. Depuis Le sens du calme, Yannick Hennel a écrit de nombreux livres, a récolté de nombreux prix, dont le fameux prix Médicis pour « Tiens ferme ta couronne », dont les pages sur Grunewald sont bouleversantes. J'ai continué à lire les livres de Yannick Hennel et chaque fois, l'art en est le passager, pas du tout clandestin. La formidable tapisserie de la Dame à la licorne, ou Caravage, ou Twombly, Van Gogh, ou Turner, Grunewald, ou Louise Bourgeois, ou Francis Bacon, sont les amorces de la littérature si poétique de Yannick Hennel. Mais pas seulement une amorce, plutôt des sujets qui lui permettent sans doute d'atteindre, dans son écriture, et une beauté, et une métaphysique dont le désir, le sacré et le mal sont, je crois, les trois clous qui en maintiennent le corps. Pour parler de ce rôle de l'art dans son écriture, je suis heureux d'accueillir Yannick Hennel lui-même. Yannick, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va.
Vous êtes surpris vous-même de l'importance qu'a pris l'art dans votre travail d'écriture? Est-ce que ça a gonflé peu à peu votre écriture ou ça en a fait partie dès le premier jour?
Je dirais que ce sont les deux choses à la fois. Disons que pour moi, écrire au départ, enfin essayer de faire de la littérature, ça relève d'une manière de faire parler ce qui ne parle pas, de faire parler les choses muettes, comme dit Poussin de la peinture, et de donner voix à ce qui est silencieux ou à ce qui est privé. Et du coup, effectivement, je me souviens de m'être entraîné quand j'étais un tout jeune homme et que je voulais écrire. Je me souviens de m'être entraîné à décrire simplement un tableau ou ce que je voyais à travers une fenêtre. Et je crois que c'est l'enfance de l'art, enfin, de faire ça. Et du coup, sans m'en rendre compte, ce petit exercice, qui est en réalité un exercice de rhétorique qu'ont inventé les Grecs, je l'ai incorporé à chacun de mes livres. Je sais que dans des romans, il y a des, sans cesse, on me l'a dit en fait, je ne me rendais pas compte en les écrivant, il y a sans cesse des pauses ou des respirations qui relèvent d'un arrêt contemplatif, d'un arrêt émotif devant une œuvre d'art, que se partagent des personnages par leur amour. Et voilà, de manière générale, je dirais que j'ai soif. Voilà. J'ai soif. J'ai une forme d'intempérance qui fait que j'ai envie de voir des œuvres d'art, en particulier la peinture. Enfin, ça ne me suffit jamais. Comme un amoureux, vous voyez, un amoureux que l'être aimé ne cesse de combler et qui ne cesse de lui manquer à la fois. Il faut que ça se répète, il m'en faut toujours plus. Il faut que j'aille voir des tableaux ou que j'en dispose des reproductions autour de moi, enfin, comme un petit rituel quotidien.
C'est le silence des œuvres d'art qui vous fait que vous êtes plutôt que exclu par ce mutisme invité en quelque sorte.
Mais je crois, oui. Enfin, je pense que l'amour, enfin, puisqu'il s'agit de ça pour moi, enfin, l'amour et l'art sont une même chose. Enfin, l'amour ne va pas sans dire. Les psychanalystes ne cessent de le répéter, mais bon, en l'occurrence, pour ça, on n'a pas besoin d'eux, pour le savoir, disons, que aimer ne va pas sans dire. Je pense que la peinture, qui par définition ne parle pas, est en réalité, dans l'expérience qu'on peut avoir avec elle, qu'elle peut nous procurer, cette œuvre, elle ne cesse de parler, mais un autre langage, évidemment. On pourrait se demander ce qu'il y a dans une image, au fond, je ne sais pas, Bacon disait qu'à l'intérieur d'une image, il y a un cri. Moi, je pense qu'il y a autre chose qui relève d'une prodigalité, d'une opulence, d'une abondance. Et je pense souvent à un tableau du Caravage où on voit, je crois que c'est un Jean-Baptiste, qui boit à une fontaine. Donc je pense qu'à l'intérieur d'une image, il y a une goutte d'eau, de la rosée, disons, cette source de vie dont parle l'Apocalypse. Je me rends bien compte que c'est ça que je cherche. C'est un désir intempérant, presque aphrodisiaque. Je cherche à... Vous parliez de désir. Je crois que pour moi, indéfectiblement, ce que m'apporte la moindre petite œuvre d'art, hein, même ça peut même être un miroitement de nacre sur une vitrine en passant dans la rue, ça relève du comblement du désir, voilà.
Il y a un passage, on va l'écouter, de votre Caravage magnifique, La Solitude Caravage, que vous avez publié il y a trois ans.
Oui, je crois,
que j'aimerais bien qu'on entende et on vous parle de ce désir de peinture et de cette plongée dans la peinture. On vous écoute.
Je plongeais ainsi dans la peinture comme on pénètre dans une orgie. Avec l'innocence de celui qui veut tout, Eros et la grâce, la jouissance et le sacré. On se jette dans les tableaux les uns après les autres et tous en même temps. On devient insatiable. Et comme il n'y a ni commencement ni fin, on se trouve à chaque instant récompensé.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous sommes avec le grand écrivain Yannick Haenel pour parler de la peinture comme source de l'écriture. Parce que Yannick Haenel, la récompense dont vous parlez dans ce chapitre, ce sont les mots probablement qui vous viennent.
Oui, c'est un afflux de nuances. Je crois que c'est ça que je cherche, enfin je suis pas le seul. À nuancer sans cesse la nuance, à m'initier, au fond c'est une initiation, mieux dire plus, dire de manière plus juste, et c'est vrai que d'être confronté dans un face-à-face sensuel, disons, avec des images, que ce soit des images de cinéma, des images de photographie ou des images de peinture, enfin, ça active cette disponibilité à la nuance qui automatiquement va donner les phrases, va donner les mots. Je pense, il est possible au fond, je me dis ça. Enfin, c'est pour ça que je m'entoure d'images que les œuvres d'art et leur reproduction déclenchent chez moi un afflux. Et maintenant, le langage pour moi ne recouvre pas du tout l'œuvre d'art. Enfin, vous voyez, je pense qu'il est impossible, évidemment, d'épuiser par des phrases ce qu'une fresque de Pompéi nous, nous offre, ou ce que, je sais pas, je dis au hasard parce que c'est juste devant moi, ce que la photographie d'Yves Klein se lançant dans le vide peut donner à voir ou à penser. Mais quand même, ça déclenche du langage, c'est moi. Je sais pas, le désir et le langage sont une même chose.
Vous êtes il y a une histoire des écrivains qui s'entourent d'images, peut-être qu'on peut citer Huysmans ou Blanchot ou Jacotet, Artaud certainement, oui. René Char parfois. Vous dites d'ailleurs que Artaud pour vous écrit sublimement sur la peinture.
Bon, je crois que son livre sur Van Gogh, Le suicidé de la société, en gros c'est ce qui s'est écrit de plus... Je ne sais pas si c'est ce qui s'est écrit de mieux, mais en tous les cas, c'est ce qui s'est écrit pour moi de plus proche de ce qu'il en est, de l'acte le plus sauvage de peindre, au fond. Et j'ai parfois l'impression, quand je lis ce petit livre, que c'est Van Gogh lui-même qui l'a écrit, au fond. On est là dans le pèse-nerfs, comme dit Artaud, dans la nervosité centrale du pinceau en train de remplacer le monde. Enfin, il y a cette phrase de Cézanne très très belle, enfin, où il dit, enfin, c'est une expression, il dit l'eau changée en vin, le monde changé en peinture. Oui, il y a une espèce de transsubstantiation, enfin, de presque d'eucharistie, je le dis de manière, ça peut être de manière païenne au fond, qui fait que il y a un acte là, une translation. C'est Artaud encore une fois qui dit translation sur le plan foudre. Oui. Je pense moi, ça me met dans un état très proche, au fond, de déchirure du visible, d'arriver. Alors, c'est avec un stylo plutôt qu'un pinceau, mais d'arriver à découper quelque chose dans le réel qui fait que le réel se met à exister.
Vous parlez aussi, lorsque vous êtes devant une œuvre d'art, c'est curieux, c'est un paradoxe quand je vous entends parler du réel comme ça qui parvient à exister, mais en même temps, l'œuvre d'art dérobe. Vous êtes face à quelque chose dont le sens n'est pas immédiat, dont le sens n'est pas fini, n'est quasiment pas clôturable. Et donc, il y a un petit passage que j'aimerais bien qu'on écoute de vous là-dessus, sur la façon dont l'abondance vient de ce qui se dérobe. Je propose qu'on l'écoute.
Comment est-il possible que l'abondance vienne avec ce qui se dérobe ? C'est bon signe, me disais-je. Si une œuvre se dérobe jusqu'à brouiller les bonnes idées qu'on peut avoir à son propos, c'est qu'elle se met à agir. C'est à proportion de la distance qu'elle provoque que le poème en elle s'anime. Je me disais, plus grande est sa réserve, plus ample sera son rayonnement.
Yannick Hennel, vous écrivez dans la réserve de l'œuvre d'art jusqu'à ce que sa puissance poétique amène votre langage, parce qu'après tout, vous êtes forcément, en écrivain, follement en attente des mots qui viennent.
Oui, je pense que c'est vrai que, au fond, cette attente est peut-être la même. L'attente devant une œuvre d'art et l'attente devant les phrases. Une sorte de guet qui ne serait pas passif, enfin, qui ne relève pas seulement de la contemplation. Le mot contemplation, qui est très beau, hein, qui a quelque chose de mystique, de trop grand pour moi, comme dirait Deleuze. Ce mot contemplation ne me satisfait pas totalement. Je pense que le rapport qu'on peut avoir avec une œuvre d'art relève d'une opération, enfin d'une disponibilité en éveil. Et c'est vrai que la vérité se dérobe, au fond. Ça, c'est toute la philosophie occidentale le dit. Je pense que ça se donne, et j'emploie vraiment le mot ça exprès, enfin, ça se donne d'autant plus que ça n'est pas là. Et que donc, je ne sais pas, une photo d'Anna Mendieta, un tableau de Bacon, non seulement ça demande à se dire, mais la vérité qui est enclose à l'intérieur de cet espace-temps là, ne cesse de bruire, mais sans s'offrir vraiment. Il y a une énigme en chaque œuvre d'art. Ça me fait penser à la définition grecque au fond de la vérité, enfin l'aletheia. Vous voyez, c'est ce dévoilement qui se retient dans son retrait. Et je pense qu'il y a quelque chose là que moi j'entends dans sa dimension érotique, voire érogène, et qui se dispense, enfin qui se prodigue dans les couleurs elles-mêmes. Au fond, c'est ça qui me... Je dois dire que c'est... Les couleurs ont enchanté ma vie depuis la première fois que j'ai vu l'autoportrait de Van Gogh, l'autoportrait bleu, là, au musée d'Orsay. Je crois que c'est ça qui me tient, au fond.
Et ce qui est assez curieux, c'est la façon dont vous avez finalement un arbre entier de noms, avec des noms qui s'élèvent sans cesse dans votre travail, apparaissent ces divinités protectrices, effectivement, Van Gogh, Klein, Louise Bourgeois. Il y a un moment où vous parlez des reines qui sont autour de vous, et vous nommez dans un de vos livres, je crois que c'est dans le livre sur la dame à la licorne, les 33 reines qui sont autour de vous, parce que là vous parlez des grandes artistes femmes.
Oui, mais je crois que c'est un agencement comme on en a tous pour faire advenir ce qu'on est capable d'être. Moi, en l'occurrence, c'est de l'écriture. Ça n'arrive pas tout le temps, donc j'essaye de me mettre dans un état d'écriture dont je connais à force un petit peu quand même les ressorts. Et alors j'ai besoin, comme quand j'étais très très jeune, c'était les disques, vous voyez, les 33 tours de rock, de new wave ou de punk qui me faisaient, passant de l'un à l'autre avec les pochettes, ça me faisait entrer dans une sorte de transe ou d'intelligence, je sais pas trop, mais peut-être de bêtises. Et là, ce sont les images, enfin, je comme des jeux de cartes que je rebattrais, vous voyez, et de fait, il y a un moment où on a une mémoire intérieure, enfin une bibliothèque intérieure, il y a des livres que j'ai pas tellement besoin de relire, j'en dispose rien qu'en y pensant, et des phrases elles-mêmes, et des couleurs, il y a toute une palette qu'on finit par s'approprier, qui devient naturelle, enfin je sais quel rouge, quel mauve un peu... presque ocre me convient chez Delacroix. Je vais le chercher quand j'ai besoin d'écrire. Enfin, je veux dire par là que j'appuie sur une touche de mon cerveau et ce rouge me vient sous les doigts. Je sais aussi que dans Fra Angelico, dans Beato Angelico, il y a une douceur près du ventre de la Vierge quand elle reçoit l'Annonciation qui pour moi est à la fois du lait et du miel et alors à force de travail, c'est comme si j'en avais la patte sous les doigts et que j'aimais le mettre sur le visage des femmes dont je parle, de mes personnages, vous voyez. Donc c'est un peu bizarre, c'est orgiaque à la fois, aussi très modeste, c'est une palette, c'est de l'artisanat, mais ça va dans l'écriture.
Et parfois, il y a des urgences. Je me souviens, dans un de vos textes, je crois que c'est sur la Dame à Licorne, tout d'un coup, ou peut-être que c'est le sens du calme, je ne sais plus, tout d'un coup, vous dites, mais il faut que je voie Twombly, il faut que je retrouve les fleurs de Twombly, c'est le soir, etc. Et à ce moment-là, vous racontez une histoire, vous n'avez plus d'argent, vous allez à Beaubourg, vous n'avez pas de quoi vous acheter un ticket. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous en souvenez?
Oui, je me souviens de ça. J'étais avec ma femme et François Méronis, un écrivain, un grand écrivain, un de mes amis. Et c'était une pure fantaisie. Nous étions en train de boire un verre. Puis d'un coup, j'ai dit, il faut absolument qu'on aille voir Twombly. Je l'avais déjà vu, mais je voulais montrer à mes amis un dessin en particulier. Vous voyez, ces moments festifs où on se dit qu'il faut que la chose advienne tout de suite. Que le désir devienne jouissance. Et on est monté à Beaubourg, et c'était sans doute une époque bénie. Enfin, elle ressemblait pas tellement à celle que nous vivons actuellement. Mais bon, j'espère que c'est une parenthèse. Et j'ai tout simplement expliqué ça à la dame, à l'entrée. Je lui ai dit, écoutez, je viens tout le temps voir les Twombly, je veux juste montrer un petit dessin. et on est passé. Il y a le miracle de la, joie communicative.
C'est formidable parce que cette jeune femme vous a laissé passer. Elle était en empathie avec vous. Elle a dit oui, je comprends. Il y a des moments où il y a une urgence. On doit voir une œuvre d'art. C'est extraordinaire. Alors il y a une autre urgence qui existe, c'est celle de ne pas quitter les œuvres d'art. Et ça, c'est un passage qui est dans La Solitude Caravage. On va l'écouter.
On pourrait très bien ne pas regarder la peinture. Elle continuerait, depuis sa solitude, à nous transmettre ces lumières qui rendent possible d'enflammer encore notre monde éteint. Le feu existe. C'est ce qu'elle affirme. J'ai encore deux ou trois choses à dire. J'aimerais que ce livre ne s'arrête pas. Je voudrais continuer à vivre avec le Caravage, transporter avec moi toute la journée des monographies comme je l'ai fait pendant un an, regarder encore et encore des tableaux, réfléchir à des détails, m'ouvrir à ces figures dont il me semble qu'elles m'ont été confiées avec douceur. Comme si Judith avait détaché ses boucles d'oreilles et les avait déposées dans la paume de ma main.
Vous êtes sur France Culture, vous venez d'entendre un extrait de La Solitude Caravage de Yannick Enel. Et je suis avec l'écrivain Yannick Enel et nous parlons de l'importance de la peinture dans son œuvre. Et effectivement, Yannick, j'ai eu l'impression que vous avez eu du mal à vous séparer de ce travail énorme de La Solitude Caravage. Vous vouliez pas refermer le livre, en fait.
C'est vrai, je voudrais que ça ne s'arrête jamais, enfin. Et parce que quand il nous semble que nous y sommes, enfin, que nous sommes présents, pas seulement à nous-mêmes, mais à tout ce qui nous échappe, quand on est dans cet état d'écoute qu'on imagine intégrale, alors on ne veut pas que ça s'arrête. Évidemment, les extases sont merveilleuses, le problème c'est la retombée. Et quand j'écrivais La Solitude Caravage, je m'étais remis à écrire la nuit, j'écris à la main. Et j'avais l'impression que cette main ne cessait d'ouvrir la nuit. Je passais à la fin, dans les 100 dernières pages ont été écrites sans cesse de minuit à 7 heures du matin. Et comme si j'essayais de rejoindre le fond noir des tableaux du Caravage. Et il m'a semblé, là, ça m'arrive pas à chaque livre, mais il m'a semblé que j'entrevoyais quelque chose, enfin, ou plutôt que quelque chose m'était donné à force de concentration qui relève de l'esprit. Et je crois que je n'ai jamais autant cru en Dieu. Je le dis comme ça, de manière vertigineuse d'un coup. Je n'ai jamais autant cru en quelque chose qui serait le grand autre, enfin, que ces nuits-là où j'ai écrit sur le Caravage, ou plutôt ça s'est écrit avec moi, sans moi, je ne sais pas. Et voilà, je me dis que parfois, comme ça, dans une espèce de folie intempérante, là aussi, ou de prétention, je me dis que peut-être je peux comprendre, ou j'arrive à comprendre, ou on pourrait tous arriver à comprendre le rapport que les fidèles entretiennent avec les ex-voto, avec la croix elle-même. Je n'ai malheureusement pas cette intensité-là de croyance, mais j'imagine qu'être comblé, comme je le suis par une œuvre d'art, ressemble à ce que quelqu'un qui a la foi éprouve face à la divinité. Voilà, mon Dieu ou ma déesse, ce serait l'art.
Vous en parlez dans Tiens ferme ta couronne, parce que tout cela a lieu évidemment face à... Hein, vous dites en tout cas que Dieu ne cesse de disparaître et qu'il y a une sorte de translation entre l'amour et la foi en Dieu et la foi en l'art. C'est comme si c'était l'autre religion qui probablement sauve également.
Ah ben je pense. C'est comme ça que je le vis, oui. Être sauvé, comme vous le savez, ça ne signifie pas obtenir sa place pour ou son repos après la mort. Enfin, c'est quelque chose qui relève d'une initiation intense à la vie elle-même, enfin, à vivre différemment à l'intérieur de la vie. comme dans les mystères d'Eleusis, il paraît, puisque c'est la chose la mieux gardée au monde, il paraît que dans les mystères d'Eleusis, rien de spectaculaire n'avait lieu, sauf qu'on en ressortait en vivant différemment ce qu'on vivait. Et vivre différemment, c'est ce qui nous est offert à chaque fois qu'on a du plaisir, tout simplement, face à une œuvre d'art. Si on va voir un Turner et qu'on est pris et épris jusqu'au sourire pendant quelques secondes, quelques minutes, ça peut durer des heures aussi, alors effectivement on est initié à quelque chose qui nous sauve, voilà, la parole qui sauve. La parole intérieure de la peinture, parole muette, qui nous sauve. Je pensais au fait que vous parliez du rapport qu'on peut entretenir avec la divinité ou le rapport qu'on peut entretenir avec les œuvres d'art. Et je me disais qu'il y a une multiplication des peintures qui est le miracle de l'art. Vous voyez, Jésus multipliait les pains, mais l'art multiplie les images, multiplie les sculptures. Et à cette multiplication-là, qui ne s'arrêtera jamais, et c'est le miracle de l'art, enfin c'est Bataille disait ça à propos de Lascaux, mais je n'en reviens toujours pas, moi, chaque jour, enfin, que ça se multiplie comme ça.
Alors, puisqu'on est dans ces questions très graves, au fond, parce que nous avons évoqué le Eros tout à l'heure, le désir qui se construit, oui, dans le monde des images, mais il y a aussi une question qui traverse tout votre travail, et l'un de vos derniers livres sur l'œuvre de Adrien Gagnier en parle énormément, c'est la question du mal. Et déjà dans le travail sur Caravage, vous aviez évoqué cela, et d'une façon assez extraordinaire. Je voudrais qu'on écoute une partie du chapitre 16 de la solitude Caravage, dans laquelle vous distinguez, vous montrez comment cet artiste pointe d'une façon si intense cette grande question du mal. On vous écoute.
Voici donc, après des siècles de peinture à louange, quelqu'un, en 1600, est capable d'entrer à la force du pinceau dans la matière du mal, et comme le Christ, de tendre son bras pour donner forme au partage de la lumière et des ténèbres. Mais cet homme au visage de hibou déchiré sait que son âme brûle de contradictions qui le rejettent loin du salut. D'ailleurs, s'il accueillait dans sa vie la révélation, si la foi, en apaisant ses tourments, lui ouvrait les mystères du royaume des cieux, sa peinture n'en deviendrait-elle pas muette? Aurait-elle encore une nécessité? A-t-on besoin de peindre dans le royaume?
Yannick Enel, cette entrée dans le chapitre 16 de la solitude Caravage est extrêmement intense et nous met au cœur de la réflexion sur l'homme impossible, en fait, hein, sur le... Et la peinture aurait des réponses à la question du mal ou elle la pose seulement?
Je pense qu'elle l'expose. C'est vrai que la phrase qu'on vient d'entendre, est-ce qu'on a besoin encore de peindre dans le royaume, c'est-à-dire une fois la vérité accomplie, me fait penser que ça s'écrit, ça se peint, ça se photographie, parce que nous n'y sommes pas, au fond, dans le royaume. Et parce que ce royaume est un... Je parlais des mystères d'Eleusis, ou peu importe, enfin, parce que tout est à atteindre à chaque instant. Je dirais que le mal... Et peut-être c'est un énoncé gnostique que je vais dire là, mais le mal est c'est l'origine de tout. Enfin, c'est le monde dans lequel on est, en un sens. On vit dans un monde intoxiqué. Enfin, je dis pas seulement cela par rapport au virus actuel. Je dis ça par rapport à tous les virus qui ne cessent de proliférer. Le langage aussi est un virus. L'information est un virus. Les déformations de tout. Et comment accéder à quelque chose qui ne relèverait pas du mal? Comment désensorceler, si je puis dire, les emprises maléfiques? Moi, je ressens ça très fortement. Enfin, dans les années 70, on aurait pu parler d'aliénation. Enfin, l'aliénation économique, politique, c'est quelque chose que je vis de manière quasi phobique. Enfin, Mais une sensibilité aujourd'hui est nécessairement travaillée par l'idée qu'il faut se délivrer, au fond, sans cesse. La solitude est le premier des accès à quelque chose qui nous fait sauter dans le vide, pour paraphraser encore Yves Klein, et accéder à une forme de salut. Donc le mal n'a pas le dernier mot, je dirais que c'est la première couche de peinture, enfin, on accède à quelque chose d'autre. Dans le Caravage, ça m'a sauté aux yeux, en fait, ce fond noir qui est traversé de lueurs merveilleuses et sensuelles. Sont les étincelles qui comptent, c'est pas le fond.
Je ne sais plus dans quel livre vous dites que vous déduisez à un moment donné que le noir est la couleur de Dieu.
Oui, là, je pense que c'était une nuit un peu bizarre dans laquelle j'ai écrit ça. J'étais très illuminé, disons. La peinture m'illumine, je cherche ça. Enfin,
mais bien sûr.
J'aimerais être illuminé 24 heures sur 24, comme vous, je suppose, et être éclairé, voilà. Trouver la lumière réelle. Alors, j'utilise un vocabulaire volontairement religieux aussi, avec un peu d'ironie, oui, je crois avoir lu ça, d'ailleurs, et d'avoir dissous cette citation de Maître Eckhart dans mon propre texte. Mais je crois qu'il dit quelque part dans l'un de ses sermons, que la véritable couleur des anges, la véritable couleur du ciel, celle des échelles angéliques qui tapissent ce qui se passe entre la terre et le ciel, c'est pas le blanc, mais c'est le noir, qui est paradoxalement la première des couleurs, parce qu'elle a absorbé toutes les couleurs, parce qu'elle est la palette entière, et qui va se délayer, si je puis dire.
Alors il y a un texte dans lequel, aussi dans la Solitude de Caravage, dans lequel vous parlez de la couleur noire, on va l'écouter.
Quant à la couleur noire, l'obtenait-il à partir d'une calcination d'origine animale ou en récupérant la suie du goudron brûlé? Le noir animal est un charbon d'os de bœuf ou de porc dégraissé qu'on fait bouillir. Et sans doute le Caravage avait-il ses filières pour trouver des os. Il n'est pas rare à l'époque qu'on chargeât les assistants de piller des tombes afin d'y déterrer des squelettes qu'on calcinait ensuite dans l'atelier. Des recettes d'apprentis sorciers, toute une cuisine du diable, précèdent ainsi le travail de la peinture, laquelle ne cesse de recycler la décomposition des corps. La mort fait partie de la substance même de la peinture. On peint avec les morts.
Yannick Hennel, recycler la décomposition des corps, l'écrivain le fait aussi. Vous avez, et là je ne parle même pas d'aujourd'hui, mais vous avez une fréquentation constante du drame, du mal, de l'horreur, et curieusement très symétriquement opposée au désir et au plaisir des corps.
Mais oui, je crois que c'est la... Je crois qu'on est assigné à ça. Enfin, c'est même pas une dialectique, c'est la donnée immédiate, l'horreur et l'extase.
Mais vous...
Les choses qu'on subit et celles qui nous magnifient, je dirais.
C'est dans le travail d'Adrien de Guénier, que vous accompagnez de considérations sur Bacon, oui, sur Van Gogh, et au début énormément de considérations sur la Shoah, avec un chapitre terrible sur la façon dont Göring signifie la terreur du matériel, de la matérialité absolue, etc. Donc là aussi, chez lui, vous retrouvez cela.
Bon, je suis très sensible aux peintures violentes, et c'est pour ça que j'aime tant Caravage, Bacon. Et je suis tombé sur l'œuvre d'Adrian Guénier, c'est un peintre roumain d'une quarantaine d'années, qui m'a semblé... elle est totalement dénuée d'érotisme, et il n'y a rien de féminin chez elle. C'est pourtant ce qui me requiert dans la vie, je dirais, dans l'art. Enfin, mais elle dit, me semble-t-il, de manière crue, après Bacon, le devenir d'un monde en proie aux démons des mutations, des métamorphoses, à un monde redevenu violemment darwinien, et où les visages se sont perdus. Et alors effectivement, il y a une expertise, je dirais, dans sa peinture, par la texture, enfin, une expertise du nihilisme qui me requiert un peu comme si je faisais de la philosophie. Vous voyez, j'ai besoin d'étudier, si je puis dire. Et la peinture d'Adrien Guénier, ça m'a plu. C'est pas ce que je préfère au monde, enfin. Et du coup, en regardant ces tableaux, je prenais des notes et j'ai écrit un livre presque sans m'en apercevoir, enfin très très vite, en 3 mois, c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais besoin de ça, sans doute pour aussi, parce qu'au fond, on ne peut pas accéder au paradis de nos propres sens si on n'a pas une vue très claire sur l'enfer, en fait.
Et en face de l'enfer, à travers la personnage, à travers la figure de Van Gogh que vous faites apparaître dans ce livre, parce que Guénier lui-même donc l'aborde, il y a une réflexion très forte sur cet absolu comme seule condition de l'œuvre d'une certaine façon. On va vous écouter.
Van Gogh affronte la lumière. C'est un combat avec le soleil. La peinture exige ce face-à-face au risque de l'insolation. Enfin, il y a l'ombre. Lorsqu'on tombe pour la première fois sur la reproduction de ce tableau, on est frappé par la violence avec laquelle cette ombre déchire le chemin jaune. On dirait un animal crispé dans son bond. Une image tremblée de la mort qui s'agripperait aux jambes du peintre. La difformité d'une telle ombre qui cloue Van Gogh au sol et le rive à l'horreur de son miroir noir affirme, et peut-être annonce, à quel point le revers de l'existence va prendre le dessus. À quel point l'énergie considérable déployée chaque jour par Van Gogh a un prix qui déjà s'énonce en noir et menace la clarté de la palette.
Ce texte, Yannick Hennel, est prolongé par un autre sur Van Gogh aussi, et il s'agit du même tableau, la route à Tarascon. C'est un tableau d'ailleurs qui a eu un destin terrible, non Yannick?
Oui, c'est un étrange tableau puisqu'il n'existe plus. Il a été brûlé, il a été victime des bombardements américains à Dresde en 1945. Et donc c'est un tableau dont nous avons une photographie. Et ce tableau de 1888, si je me souviens bien, est le tableau, je dirais, programmatique de toute l'œuvre de Van Gogh, parce qu'on y voit le peintre sur le chemin jaune, enfin justement, avec tout son barda et un étrange chapeau jaune en forme d'auréole ou en forme d'infini, vous savez, le 8 couché. Et il y a cette ombre, on dirait qu'un chien est en train de lui mordre les mollets. Il y a une ombre maléfique sur le chemin jaune, au bord de l'insolation. Et quand je regarde ce tableau, mais on ne l'a pas, enfin ce tableau manquant, je pense à la phrase à la maxime de La Rochefoucauld. Enfin, je ne saurais pas la redire exactement, mais il dit qu'il n'y a que deux choses qui ne peuvent être regardées en face, le soleil et la mort. Or là, s'il y a bien quelqu'un, et d'ailleurs il a les yeux rouges, je crois, sur ce tableau, s'il y a bien quelqu'un qui a fixé toute sa vie en face la mort et le soleil, c'est bien Van Gogh. Bacon, en 1957, a passé toute une année à Hanovre à refaire ce tableau, à le décliner, obsédé sans doute par cette ombre qui va devenir son vrai sujet. Enfin, l'ombre va prendre la place chez Bacon du sujet. Et obsédé sans doute aussi, enfin, c'est mon interprétation, et j'aime penser ça me fait penser, disons, que Bacon, à travers la manière de repeindre Van Gogh en pleine insolation, parlait en fait d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est-à-dire l'avènement du destin atomique de la planète et de la manière dont les humains étaient eux-mêmes atomisés. Et vous voyez, pour moi, la peinture pense.
Oui.
C'est pas qu'elle veuille dire quelque chose, mais elle est porteuse d'un sens qui se diffracte. Enfin, voilà, elle, sans le savoir, sans le dire de manière discursive, elle est un état, en fait, de tout ce qui a lieu sans cesse, à chaque instant sur Terre. Elles sont des impacts, au fond. ce qu'on voit sur la toile de Van Gogh, sur la toile de Bacon, sur celle d'Adrienne Guénier, sont les impacts du monde visible et invisible.
Et ces impacts se répondent, et au fond, on pourrait dire que par moment, il y a une continuité dans l'art et entre les artistes qui sont tous contemporains les uns des autres. Votre Caravage est parfois contemporain de la solitude de Van Gogh.
C'est juste, moi c'est quelque chose, bon c'est Borges qui disait ça, même Proust le disait au fond, Proust et Borges disaient, il n'y a qu'un seul écrivain qui est peuplé de tous les écrivains qui se suivent, il y a une procession, et je le crois aussi pour la peinture, enfin au moment où on aime, on est le monde entier, enfin au moment où je regarde le petit chapeau jaune de Van Gogh et son ombre qui va le dévorer, j'ai l'impression de voir déferler tout ce que j'ai vu avant, tout ce que Van Gogh a vu avant pour peindre. Il y a une histoire du monde qui se redéplie à chaque instant à travers non seulement le pinceau ou l'appareil photographique ou la caméra, mais à travers notre œil au fond. On a un œil, je crois que c'est Gauguin qui disait ça, il parlait de l'œil insatiable et en rut. Alors le rut c'est...
Mais le vôtre est ainsi.
J'en ai bien peur.
Il y a une chose que vous rendez commun à Van Gogh. Et à un moment donné, vous dites dans votre texte sur Van Gogh, à propos de Guénier, justement, Van Gogh, en tant que peinture, dit que seul l'absolu a un sens et que le sens, il existe, c'est l'absolu, le reste n'existe pas. Peindre, c'est découvrir qu'on est seul avec l'absolu. Et une des choses qui était très particulière dans le livre sur Caravage que vous avez fait, c'est que, au lieu comme... C'en était l'usage chez les auteurs de raconter Caravage voyou et Caravage bretteur. Vous insistez sur il fallait qu'il soit seul pour peindre. Il y avait beaucoup plus de moments seuls dans l'atelier, de moments de solitude et probablement d'inquiétude, de doute ou de rêverie que de moments héroïques ou de cap et d'épée, si je puis dire.
Ben oui, pour moi c'est une évidence. Enfin, moi j'aime bien que ce soit un bad boy, mais et ça me plaît, disons. Mais au fond, là où il est vraiment un héros, c'est pas quand il est éméché et qu'il se bat avec d'autres voyous. Ça, on s'en fout au fond. C'est la petite aventure dont on a besoin parce qu'on peut pas peindre du matin au soir ou on peut pas écrire du matin au soir. Donc la nuit est là aussi pour nous apporter une provision d'audace. D'une autre audace. Mais pour moi, c'est un héros dans la solitude. Et je pense qu'on n'insiste jamais assez, et à la fin, il y en a un peu marre du folklore, de la peinture, c'est la peinture elle-même qui est belle. On n'insiste jamais assez sur le fait que les peintres, que les artistes en général, sont des gens qui ne cessent de travailler. Moi, j'ai eu quelques amis peintres, ça, je continue d'en avoir, et je suis toujours saisi par leur emploi du temps vertigineux, c'est-à-dire qu'ils ils se mettent pas au travail pour 2 heures le matin ou une petite heure l'après-midi quand l'inspiration viendrait. Il y a quelque chose d'athlétique. Enfin, la figure de Picasso nous a appris ça. Enfin, il y a quelque chose presque de démiurgique, d'un surdéveloppement des forces. Et alors le Caravage, oui, bien qu'on ne puisse recenser au final, malgré toutes les fausses attributions, qu'à peu près 70 tableaux, c'était quelqu'un qui ne cessait de chercher, enfin, de penser à travers la peinture, et de s'approcher du vivant, de s'approcher même du tableau vivant le plus possible, et qui n'avait pas d'atelier, mais j'ai pensé que c'est là qu'il fallait le rencontrer, dans la solitude nocturne de ses tentatives. Et peindre un tableau pour le Caravage, ça prend 3 mois, si j'ai bien compris, et à peu près. Et Van Gogh faisait 3 tableaux par jour à un moment vers la fin de sa vie, mais un peintre classique en 1600 et quelques, il faut plusieurs mois, voilà, 3 mois. Dans ces 3 mois, c'est le point de solitude qui m'intéresse. Le point où, à force de rétention, à force de procrastination, à force de tension, on y arrive.
C'est une endurance, vous dites, de Van Gogh, mais on pourrait le dire de Caravage, c'est de vivre cet absolu, d'endurer son soleil, de s'exposer à cette insolation. Le peintre est un roi, c'est le vrai roi, même s'il vit comme un pauvre, et s'il n'est pas un roi, si sa royauté secrète ne s'accomplit pas à travers la peinture, alors il n'est pas un peintre. C'est net, si je puis dire.
Oui, c'est vrai. C'est discutable, évidemment. C'est comme ça que je sens intimement les choses. C'est comme ça que je parviens... Enfin, c'est pas que je parviens. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas, par exemple, en la société. J'y vis, évidemment. J'en jouis aussi. Je fais ce que je peux pour y survivre et l'aimer. Mais je pense que tout a lieu plus secrètement, sur un autre plan qui n'est pas rétribué et qui n'est pas rétribuable. C'est un plan qui ne relève pas seulement de l'esprit. C'est un plan qui n'est pas seulement spirituel. Mais c'est un plan où... un plan de consistance, dirait Deleuze, un plan de réalité où des gens qui n'ont l'air de rien, le mendiant en bas de chez moi, une enfant qui passe, un peintre, un poète, une poète, règnent véritablement, précisément parce que leur souveraineté est sans pouvoir, et parce qu'ils ne demandent rien, en fait. Et moi, je pense qu'il y a une histoire parallèle, au fond, à celle des guerres, des dates, à l'histoire politique. Cette histoire parallèle, disons que c'est celle des avant-gardes, et ça, j'aime
oui.
Merveilleusement ça. Et c'est celle de ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire ces minuscules souverainetés humbles qui sont, et délirantes aussi, hein, qui font que, bah, qui appartiennent aux artistes, voilà.
Voilà, et qui sont inoubliables, bien sûr. Dans votre livre « Tiens ferme ta couronne », à la fin du livre, il y a un moment très extraordinaire quand vous décrivez un livre je crois qu'elle s'appelait Anna. Et ce livre, je me suis demandé si c'était pas le livre que vous vouliez faire, votre dernier, votre prochain, je ne sais pas, livre sur l'art. Et vous dites « un livre traversé et même... habité par une lumière radicale comme jamais aucun livre d'art n'avait réussi à en produire, une lumière qui relevait à la fois de l'exploit philosophique et de l'acte mystique, une lumière qui finalement était l'autre nom de l'amour et de la foi absolue qu'on peut avoir pour l'art, amour et foi qui venait prendre la place exacte de la croyance qu'on peut avoir en Dieu et peut-être coïncider avec elle. » C'est un passage extraordinaire, c'est le livre idéal, non ?
Ah oui, j'adorerais être capable d'écrire ce livre. Pour l'instant, je le dissous, si je puis dire, dans chacun de mes romans, mes essais, mais oui, ce serait beau. Oui, j'avais attribué ce livre-là, imaginaire, à le livre parfait, finalement.
À une infirme.
À cette femme, à une infirme, absolument. Quelqu'un qui devenait du bois, je disais, parce qu'elle était la gardienne. J'avais imaginé que c'était la gardienne, si je peux dire, pas la gardienne, la directrice, je disais gardienne au sens le plus noble du terme, la directrice du musée d'Unterlinden à Colmar, devant qui contient le retable d'Isenheim. Et j'avais imaginé ce personnage qui souffrait, je trouve pas le terme depuis tout à l'heure, mais de quelque
chose
d'une sclérose en plaques, exactement. Et elle devenait comme le Christ crucifié, elle devenait du bois. Et moi, vous savez, je suis obsédé par la ligature d'Isaac, par le sacrifice d'Isaac et par ses représentations, parce que précisément là, il y a une vérité pour l'art, enfin c'est comme ça que je me le raconte. Le moment où le couteau arrive sur Isaac, le consacre, puisque vous savez qu'il en réchappe. Être consacré, c'est avoir vu la mort et en réchapper, c'est devenir sacré. Et pour moi, la gorge, enfin, faire parler la gorge d'Isaac à l'instant du couteau, ce serait ça, l'art. Et donc, ça a à voir, effectivement, avec... c'est pour ça, sans doute, que ce personnage d'Anna, j'en avais fait une infirme, je m'en rends compte à l'instant en vous parlant, c'est que pour moi, ça vient d'une déficience, au fond, de quelque chose comme une blessure, enfin, Genet dit ça aussi à propos de Giacometti, une blessure originelle, le couteau sous la gorge, mais ce couteau fait de celui qui en réchappe quelqu'un qui n'est pas n'importe qui devient un roi ou une reine secrète. Et c'est ça pour moi l'art, ça vient de cette position de la victime qui se relève de la mise à mort et qui va, je sais pas, je laisse des suspensions, c'est à vous de continuer cette phrase.
Oui, je ne pourrais pas la continuer, mais ce que vous décrivez me fait penser à ce fameux tableau de Rubens sur le sacrifice d'Isaac, où le couteau est suspendu entre la main du père et la gorge du fils, en train de tomber parce que l'ange est intervenu et a suspendu, comme vous venez de le faire avec quelques points de suspension, les choses entre la foi et la mort, en fait, tout simplement. Et il y a, c'est peut-être ça l'autre phase du sacré dont vous parlez, on va écouter ce que vous en dites.
Mais le sacré possède une autre face, illuminée elle aussi par l'abîme et plus difficile à discerner. Cette face, plus clémente, gorgée de disponibilité gratuite, se manifeste depuis l'éclaircie que provoque la foudre. Toute beauté véritable est une apocalypse. En ouvrant le temps, elle révèle ce qui, en lui, à la fois détruit et sauve.
Kennel, entre détruire et sauver, vous donnez à l'artiste et à l'écrivain que vous êtes une énorme responsabilité. On a l'impression que le créateur, je ne parle pas de Dieu, mais de l'artiste, a dans votre esprit une responsabilité considérable.
Alors, responsabilité, je ne sais pas, il fait ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut. Il y a un bras d'honneur aussi au fond de chaque geste artistique. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a un absolu et c'est vrai que je pense qu'un artiste, un chercheur de vérité, il me semble qu'à peu près tout le monde a abandonné cette tâche dans la société contemporaine. On remplit des fonctions, mais on ne cherche plus la vérité, ou sa vérité. Et les chercheurs de vérité, comme les porteurs de lanternes dont parlait Stevenson, j'aimais bien ça enfin, quand j'étais petit, les porteurs de lanternes dans la nuit, les chercheurs de vérité n'ont pas besoin de la ramener sans cesse. Ils sont gratifiés par l'endurance qu'ils font justement des choses les plus extrêmes, de la destruction qui est là à chaque instant. Enfin, ils la sentent, comme disait Baudelaire, ça sent la destruction, et en même temps ils voient l'éclaircie. Voilà, je crois que c'est ça, c'est pas seulement être un artiste, c'est vivre, c'est aimer, c'est ressentir. Moi, je vois une fontaine au cœur de chaque instant. Peut-être que je suis un peu illuminé en vous disant ça, mais je vois aussi en même temps la bouchure, le noir, le cauchemar. Je veux sortir du noir. Mais je vois cette fontaine en même temps. Je pense que le moment où on ne voit plus cette fontaine dans sa vie, ça devient terrible.
Mais vous la croisez, cette fontaine, parfois dans le noir absolu. Vous n'hésitez pas à le fréquenter. Vous allez dans des... Vous vivez depuis quelques semaines dans des circonstances qui doivent être bouleversantes. Vous assistez, je ne veux pas vous attirer sur ce sujet puisque je voudrais qu'on parle sur votre peinture, mais néanmoins, vous êtes au cœur du mal dans ce procès que vous suivez aujourd'hui.
C'est vrai que je me mets aussi volontairement, mais c'est mon travail, enfin c'est comme ça que je le vis. Je me mets dans des situations propices à l'écriture. Je suis allé d'une part sur le versant lumineux, je suis allé vivre spécialement à Florence pendant 5 ans, pour être au plus près de Fra Angelico en l'occurrence. Et là, depuis le mois de septembre, je suis 24 heures sur 24, malheureusement il est suspendu en ce moment, le procès des attentats de janvier 2015, parce que tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, ça relève pas de l'histoire du passé. L'art n'est pas une chose passée, comme disait Hegel. C'est le cœur même de chaque instant, et pour moi, les attentats de janvier 2015, c'est un moment dans l'histoire politique actuelle, enfin, et je pense qu'un écrivain, enfin, c'est quelqu'un qui doit comprendre ça, enfin, qui doit, il fait ce qu'il veut, mais je vis cette expérience et j'écris chaque nuit ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu au tribunal, parce que je m'interroge de manière métaphysique au fond sur ce qu'il en est de la justice possible en tant qu'elle réplique au maléfique, au malfaisant, à la malfaisance. Je n'arrive pas à comprendre, au fond, pourquoi est-ce qu'on égorge. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on décapite. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'islamisme radical dévoie à ce point-là cette religion merveilleuse, lyrique, chantée, qui est poétique, qu'est l'islam et qu'est le Coran. Donc j'y suis allé, et j'écoute, et j'écris. Et effectivement, j'ai le regard et les oreilles braqués depuis 3 mois sur ça, parce que c'est un versant indispensable, je dirais. Il faut faire acte de présence là pour pouvoir témoigner de ça aussi. Enfin, sinon, on fait de la poésie dans son coin, on parle de son petit jardin, c'est très beau aussi, mais faire communiquer le petit jardin, c'est-à-dire la fontaine, la clarté, et le plus obscur du crime, arriver à trouver les mots pour ça, à les faire dialoguer, ce serait le vrai travail d'écriture.
On est bien au-delà d'une question de beauté de la phrase qui est là pourtant. On est vraiment dans une recherche qui dépasse toute esthétique. On est dans le sens même de l'humain.
Oui, alors peut-être on pourrait dire qu'il n'y a pas d'au-delà de l'esthétique, que l'humain est un sous-genre de l'esthétique, mais là je dis ça par paradoxe. Mais c'est vrai que les œuvres d'art, pour moi, ne constituent pas une dimension séparée de l'existence. C'est pas quelque chose en plus ou à côté. C'est l'existence elle-même. J'ai tendance à penser les choses de manière très métaphysique, au fond. Tout est là à chaque instant, la vie et la mort sont la pesée la plus immédiate, comme une donnée immédiate de la conscience. Et précisément de cette année 2020 qui nous a tous pompé l'air, hein, je le dis exprès, cette expression, c'est on a du mal à respirer. Cette année 2020, quand même, si on y réfléchit un peu dans son mystère lui-même, ne cesse de nous exposer à l'empêchement, à l'obstacle, à ce qui ne veut pas se penser, cet obscurcissement de nos libertés, cette intoxication qui menace, enfin ça nous expose à la menace elle-même. Voilà, à chaque instant, la vie et la mort sont pesées, comptées, divisées, pour reprendre cette formule biblique. Et je pense que je veux pas faire mon Pascal et je veux pas faire mon Blaise Pascal, je veux dire, mais il me semble que durant cette traversée qu'on mène là, et qui est encore une fois exaspérante, de devoir ne plus toucher personne, ne plus voir personne, il y a comme une manière aussi de regarder le noir en face, le fond noir du Caravage.
C'est une belle conclusion, Yannick Hennel, on va terminer là-dessus. Regardez le noir en face, Dieu sait que vous le faites. Merci Yannick, infiniment, de vos paroles.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
Aujourd'hui, j'ai reçu Yannick Hennel pour parler de l'art et l'écriture. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Sophie Catherine Gallet, chargée de recherche Maureen Roy, à la technique Clément Daté, lecture Hélène Losseur, réalisation Thomas Joss. Merci Thomas. Dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot. Bon après-midi sur France Culture.